Depuis quelques années déjà, on peut dire que le grand public catholique s'est habitué à l'idée que l'Église est en train de changer. On assiste en effet à une sorte de brassement, ou du moins à une activité de renouveau qu'on a appelée une mise à jour. Les vieilles églises se dépouillent de leurs statues et de leurs ornements. Les nouveaux édifices sont d'un style d'avant-garde extrêmement sobre et dépouillé, sans pour cela manquer de beauté, il faut le dire. La messe est presque partout dite en langue vivante. Les prêtres ont troqué leurs robes moyenâgeuses contre l'habit plus saillant dit de clergyman. Il est vrai que ces changements, pour la plupart, n'ont affecté que la surface du catholicisme. Un prêtre est toujours un prêtre, quelle que soit sa tenue vestimentaire. La messe reste la messe, quelle que soit la langue qui la véhicule. Aux yeux de la masse, ce sont là néanmoins des modifications spectaculaires. Le visage de leur religion traditionnelle a changé. Ce n'est plus la même chose, dit-on. Nombreux sont les fidèles qui se sentent frustrés et décontenancés. Leur sentiment religieux est près de disparaître. Ils ne s'en cachent pas. Ce qu'ils aimaient dans la religion n'est plus. Les statues sont parties en emportant leur foi. Moins extrêmes, mais plus nombreux, sont ceux qui ne savent pas trop que penser de tout cela et qui se résignent, comme toujours, à faire ce qu'on leur prescrira dans ce domaine. Mais je m'adresse particulièrement à ceux qui accueillent cette mise à jour de leur religion avec une grande satisfaction. Ce sont en général des personnes dynamiques et sincères, soucieuses des questions spirituelles. Chers amis, c'est au nom de cette sincérité, lien véritable au sein de nos différences, que je voudrais faire quelques remarques et vous poser quelques questions. Lorsque je m'entretiens avec certains d'entre vous, je distingue deux attitudes en face de cette activité de renouveau dans votre Église. Certains se réjouissent de voir que l'Église se modernise, qu'elle vit avec son temps, qu'elle est prête à s'adapter aux exigences de la vie moderne. L'autre attitude est plus rare. Elle se réjouit non pas de ce que l'Église devient moderne, mais plutôt de ce qu'elle devient un peu plus conforme à l'Église que le Christ a bâtie, telle qu'elle est décrite dans les Écritures. J'avoue que je préfère de loin cette dernière réaction. Chers amis, ne croyez-vous pas, en effet, que nous faisons fausse route lorsque nous nous figurons qu'il faut constamment adapter l'Évangile aux exigences de la vie moderne, sous peine de voir les églises se vider? Le Christ n'a-t-il pas, au contraire, incité ses auditeurs à s'adapter eux-mêmes à la discipline de son message? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il ne s'est pas soucié de leur plaire, pas plus que ses apôtres après lui. L'important était de dire la vérité en annonçant la parole et rien que la parole et toute la parole. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, c'est dans la mesure où l'Église tente à se rapprocher des Écritures vers une simplicité évangélique que j'acclame les changements qu'elle s'impose, et je sais que vous êtes nombreux à ressentir la même émotion. Cela n'empêche pas, me direz-vous, que l'Église essaie de répondre aux besoins de son temps, en retrouvant un visage plus jeune. En quelque sorte, elle s'adapte à son époque. Et vous dites cela avec une certaine fierté devant la flexibilité, la malléabilité d'une si grande organisation. C'est cette fierté, précisément, qui m'étonne, quelque peu, car en fait, n'êtes-vous pas en train de découvrir la valeur et la nécessité de ce que d'autres ont déjà enseigné et pratiqué pendant des siècles? Ainsi, j'entends parler de la participation active de chaque fidèle dans la vie de l'Église comme d'une nouveauté surprenante. C'est sans doute nouveau pour vous, mais c'est ce que nos églises chrétiennes ont enseigné et pratiqué depuis toujours, et cela parce qu'elles se sont efforcées de respecter l'enseignement biblique sur ce sujet. Nous avons toujours insisté sur le fait que la distinction clergé-laïque est une notion étrangère à la Bible et nuisible à la santé spirituelle de l'Église. Que chaque chrétien est un prêtre, appelé à remplir un sacerdoce au nom du Christ, qu'il est, selon l'enseignement même des apôtres, une pierre vivante dans l'édifice spirituel qu'est l'Église. Je vous entends discuter aussi, et j'ai souvent participé à vos débats, de cette innovation révolutionnaire dans la manière de célébrer la Sainte Cène ou la communion. Vous parlez avec animation de la communion sous les deux espèces, comme disent les théologiens, c'est-à-dire avec le pain et le vin. C'est là encore une nouveauté pour vous, mais c'est aussi ce que nos assemblées chrétiennes ont toujours pratiqué, parce que tel est précisément l'enseignement des Écritures. « Mangez-en tous, avait dit Jésus, buvez-en tous. De même, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, depuis cette époque, il s'est toujours trouvé des croyants, des assemblées chrétiennes qui ont voulu rester fidèles à ce commandement du Seigneur. Un ami avec lequel je m'entretenais sur ce sujet me dit « Mais ce n'est pas pratique ». Ce réflexe trahit malheureusement la façon de penser d'une accablante majorité. On ne se demande pas d'abord ce que le Seigneur a prescrit, on s'inquiète de savoir si c'est pratique ou si c'est moderne. Le baptême est une autre question à l'ordre du jour. Je vous vois profondément surpris, même bouleversé, d'entendre certains de vos prêtres envisager la suppression du baptême des enfants. Je ne sais pas quand cette mesure sera appliquée ou si elle le sera jamais, mais je sais que c'est un sujet âprement discuté. Je dois dire que ces débats sont aussi animés aujourd'hui chez les protestants qui pratiquent le baptême des enfants que chez les catholiques. On enregistre de part et d'autre beaucoup de remous, car ce sont les bases même de la tradition qui sont ici remises en question. Et vous êtes unanime à affirmer que si ce changement devait se produire, ce serait assurément l'un des plus spectaculaires depuis la convocation du Concile, et dont les conséquences risquent même d'être très grandes. Renouveau, bouleversement, sans doute, mais ici encore, ce n'est qu'une découverte de la valeur et de la nécessité de ce que d'autres ont enseigné et pratiqué depuis fort longtemps, depuis le commencement, dans leur souci de respecter les données de l'Écriture. On trouvait bizarre, il y a quelques années, cette secte qu'on appelle l'Église du Christ, car, à ce que l'on raconte, chez eux, on ne baptise pas les enfants. Il faut avoir atteint l'âge de raison, et en plus, ils baptisent par immersion. Je crois que l'on nous comprend mieux à présent, et le courrier que je reçois en témoigne. Car les voix qui s'élèvent parmi vous contre le baptême de nouveau-nés sont comme un écho de ce que nous avons toujours enseigné sur ce point, à savoir que selon les paroles mêmes du Christ, ne peut être baptisé que celui qui croit, que le baptême est un acte de foi et d'engagement personnel, qu'il implique aussi le repentir et que par conséquent, seuls les êtres responsables, capables d'exprimer leur foi et leur repentir, sont appelés au baptême. C'est pour cette raison que tout en rapportant et en décrivant de nombreux baptêmes d'adultes, la Bible ne mentionne jamais le baptême des enfants. Une constatation s'impose à ce point. Tous ces changements dont on parle, et que d'aucuns appellent à tort une entreprise de modernisation de l'Église, ne sont en réalité que la redécouverte de l'enseignement biblique dans sa simplicité, et qui n'aurait jamais dû être abandonné. Rien n'aurait dû être changé depuis le commencement dans le culte et la doctrine de l'Église. Mais était-ce possible ? Bien sûr, puisque depuis le commencement, il s'est toujours trouvé dans le monde des chrétiens qui ont refusé de changer ce que le Christ et les apôtres leur ont transmis, et qui, jusqu'à ce jour, ont retenu cette simplicité évangélique. Ils ont toujours été de leur temps. Jamais leur religion ne s'est trouvée démodée. C'est pourquoi, chers amis, j'acclame avec vous les changements qui s'opèrent parmi vous. Certes, je tiens en bride mon enthousiasme, car je sais que trop nombreux sont ceux qui ne veulent le changement que par amour du changement, et que trop peu nombreux sont ceux qui veulent changer par amour pour la parole de Dieu et la simplicité évangélique. Et il faut beaucoup d'amour et de conviction pour revenir résolument jusqu'à la parole, à travers tout un passé de traditions et d'habitudes. En définitive, c'est une telle attitude qui caractérise le véritable enfant de Dieu, seul digne du royaume, car cette attitude dit « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne, non pas mes préférences, mais tes commandements. »